RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Alors qu'il a été élu pape 2 ans plus tôt, François publie en mai 2015 une encyclique Laudato Si, saluée par de très nombreux observateurs et reconnu comme un texte de référence en matière d'écologie intégrale. Alors comme le veut la tradition, ce sont les premiers mots du texte qui ont donné son nom à l'encyclique, hein, Laudato Si, les premiers mots de la célèbre prière de Saint François d'Assise. Un texte qui célèbre aujourd'hui, 18 juin 2024, c'est 9 ans si je me trompe pas, j'ai dit mai, mais je crois que c'était bien en juin. On va voir ça avec notre invité. On va souffler les bougies de ce texte avec vos témoignages évidemment. Dites-nous si vous avez eu l'occasion déjà de lire Laudato Si. Est-ce que vous pensez que les chrétiens peuvent peser dans l'écologie intégrale, dans la transition écologique? Et si oui, comment et pourquoi? En quoi Laudato Si vous inspire? Savez-vous si votre diocèse ou votre paroisse s'est lancé dans une vraie démarche écologique? On vous attend 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, une fois n'est pas coutume, une seule invitée, mais on est très heureux puisqu'on la connaît dans Je pense donc j'agis, c'est vous, Anne Doutriot, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous entendre à nouveau, vous êtes ambassadrice du mouvement Laudato Si en France. Est-ce que je me suis trompée dans les dates de Laudato Si?
Eh bien, en fait, on fête généralement avec le mouvement Laudato Si l'anniversaire de l'encyclique sur une semaine de mai. Mais c'est vrai qu'il me semble que la promulgation officielle, il y a deux dates possibles. Donc voilà, nous, on est plutôt à commémorer la première dans le cadre de la semaine Laudato Si qui a eu lieu cette année entre le 19 et le 26 mai. Mais on prend une semaine pour fêter ça.
Ouais. Alors moi, j'ai bien noté, et je viens d'aller vérifier la date de publication de Laudato Si. C'était le 18 juin 2015. Voilà, on est dans les temps. Peut-être, voilà, exactement. Laudato Si, donc, c'est une encyclique. Pour faire simple, c'est un texte, tout simplement, qui a été écrit par le pape François. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, peut-être, vraiment, en quelques mots, l'idée de ce texte?
Alors, dans les points un peu marquants, il y a le fait que c'est une lettre qui s'adresse à tous les habitants de la planète. Et c'est quelque chose qui était peut-être un peu spécifique, cette ouverture très large, et qui fait le point sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à la fois au niveau de la crise écologique, mais de la dimension sociale, la manière dont les personnes vivent, et qui apporte un éclairage en disant, voilà, quelle est la réponse, qu'est-ce que peut apporter l'Église catholique à ce problème qui est énorme et qui nous concerne tous.
Si on se replace dans le contexte, on était en 2015, est-ce que l'Église, à cette époque, avait déjà prononcé ce mot écologie? Alors, je titille un petit peu, évidemment, mais est-ce que l'écologie avait pris sa place dans l'Église catholique?
Alors, en fait, on présente souvent l'encyclique comme une rupture, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans la continuité, c'est-à-dire que déjà dans des discours de Jean-Paul II ou de Benoît XVI, cette question de l'écologie était envisagée. Le côté un peu nouveau, c'est cette lettre qui s'adresse à tous, et c'est peut-être de mettre ensemble, de revisiter un peu la tradition chrétienne en disant, voilà, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet-là. Et au niveau de l'actualité, 2015, c'était l'année où on savait qu'il y avait la COP21 à Paris, qui était prévue, et c'est aussi un texte qui est là en anticipation de cette COP pour avoir un appel à des décisions pour la COP.
Donc voilà, ça c'était vraiment le contexte. C'est un texte qui se lit très facilement, Laudato Si. Il faudrait peut-être le dire à celles et ceux qui n'ont jamais lu l'encyclique. C'est très accessible en tout cas.
Ah oui, tout à fait. C'est par rapport à d'autres textes de référence qu'on peut avoir, là, ça s'adresse vraiment à tous. Alors après, c'est un texte qui est riche, donc on peut prendre le temps, mais c'est tout à fait accessible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le lire en une heure ou en une soirée, et il y en a qui vont s'arrêter sur certaines parties pour réfléchir, pour discuter, qui vont prendre plus de temps. Mais c'est un texte qu'on peut relire aussi facilement.
Vous l'avez lu le jour de sa sortie?
Eh bien, en fait, curieusement, non. J'ai réalisé que j'ai mis peut-être un peu plus de temps, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler quand c'est sorti, mais je suis vraiment plongée dedans quand j'ai voulu commencer à organiser des choses autour de Laudato si. C'était une thématique qui m'intéressait beaucoup, la thématique de l'écologie. Et je savais que l'Église avait dit des choses intéressantes, mais je trouve que quand ça a été publié, c'était un moment de ma vie où j'avais peut-être un peu moins de disponibilité pour me pencher là-dessus. Donc, c'est vraiment plutôt en 2020 que je suis rentrée dans ce texte-là. Et alors moi, pour le coup, j'ai mis plusieurs mois à le lire parce que je prenais tellement de notes, je notais tout ce qui me paraissait intéressant. Donc mon mari se moquait un peu de moi en me disant « mais tu vas pas recopier toute l'encyclique ». Mais tout me paraissait intéressant. Donc voilà, c'était extrêmement intéressant comme lecture.
Voilà, un texte extrêmement accessible qu'on invite d'ailleurs. Tout le monde pourrait vraiment s'y mettre parce que justement, c'est une vraie Bible. Alors sans mauvais jeu de mots, ni blasphème, hein, bien sûr, Anne de Trio, mais vraiment pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, qui n'est pas forcément chrétien, on peut vraiment s'y mettre.
C'est un texte qui a touché beaucoup de monde et très largement, y compris en dehors de l'Église, parce que je pense que c'est un message qui nous concerne tous. On est dans une la situation qu'on vit est quelque chose qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, quelles que soient les religions, c'est un message qui peut parler. J'ai en tête un échange avec un intervenant qui avait participé à une des formations en ligne qu'on organisait, qui est musulman. Et qui me disait, ça m'intéresse beaucoup de voir le lien que vous faites entre la spiritualité et l'écologie. Et on a échangé un peu sur le contenu de Laudato Si, et finalement, il était tellement enthousiaste que pendant la formation, c'est lui qui a pris la parole en disant, on doit garder la maison commune. Enfin, c'était très surprenant de voir à quel point il pouvait se reconnaître, et tout en étant aussi dans sa foi musulmane.
Alors vous, Anne de Trio, si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous êtes ambassadrice du mouvement Laudato Si en France, un mouvement donc qui s'est créé après, évidemment, la publication de cette encyclique.
Alors en fait, très précisément, je suis coordinatrice. France du mouvement. Voilà. En fait, le mouvement, curieusement, a démarré avant. Il s'appelait pas Mouvement Laudato Si, évidemment, avant la publication de l'encyclique. Il s'appelait Mouvement Catholique Mondial pour le Climat. Et c'est un mouvement international qui s'est créé à l'initiative de catholiques qui étaient dans différents pays du monde, beaucoup dans des pays du Sud, et qui savaient d'une part qu'il y avait cette échéance de la COP21, et d'autre part, que le pape préparait un texte, et la volonté était d'accompagner la sortie de ce texte et d'aider à mobiliser les catholiques autour des enjeux de la COP21. Et le mouvement a pris le nom de mouvement Laudato Si, il me semble, il y a 3 ans, en se disant finalement, notre mission, elle est plus large que le climat. Il y a aussi la question de la biodiversité, il y a aussi toute la dimension sociale qui est extrêmement importante, de lutte contre la pauvreté, lutte contre les injustices. Et avec toute une réflexion synodale, il a été décidé de prendre ce nom en demandant l'autorisation au Vatican, bien sûr, et également aux franciscains. Donc, on est très en lien avec tout le monde.
Pourquoi aux franciscains ?
Parce que ça fait partie de leur héritage aussi, et on s'est dit que on n'allait pas s'approprier quelque chose qui était vraiment dans la spiritualité franciscaine sans être en lien avec eux. Il y a des relations assez fortes avec les franciscains, notamment à Assise. Et une des choses qui a joué sur quand l'idée a émergé de ce processus synodal de prendre le nom de mouvement Laudato Si, c'était de dire c'est très beau finalement d'avoir dans notre nom une prière. Chaque fois qu'on dit notre nom, on dit une prière. Ouais, une prière de louange à Dieu.
Parce que vous parlez de Saint François d'Assise. Qui a inspiré vraiment le pape François. D'ailleurs, s'il a choisi ce prénom de pape, c'est parce qu'il était très inspiré par François d'Assise. L'homme de la création, on peut presque dire, l'homme qui respectait énormément la nature, les animaux et j'en passe, Anne de Trio.
Mais à la fois la création et les pauvres, et il est vraiment François d'Assise dans cette relation à Dieu, relation à l'autre, et aux plus pauvres, aux plus vulnérables, et relation à l'ensemble de la création. Et c'est vrai que le début de Laudato Si nous donne en exemple François d'Assise, en disant c'est quelqu'un qui vivait à une époque très différente de la nôtre, mais qui a beaucoup de choses à nous dire sur la manière dont on peut vivre aujourd'hui en lien avec la création, avec les autres et avec Dieu.
Quand vous l'avez lu, ce texte, alors vous l'avez lu en quelques mois, c'était il y a quelques années, Anne de Trio, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Je pense que c'est cette capacité à la fois à faire un constat, et c'est reconnu de manière assez large que le constat scientifique qui est dans Laudato Si est très précis et très juste, parce que beaucoup de scientifiques sont venus pour participer, et des scientifiques de renom, pour participer à cette préparation de cette partie-là. Mais c'est de dire, on part d'un constat et on regarde la réalité, et en même temps, on va aller aux causes, en disant, c'est tout ça.
Petite coupure avec Anne de Trio. qu'on va retrouver dans un instant. Ça me permet de vous rappeler que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour nous parler de cette encyclique Laudato Si. Si vous l'avez lu, dites-nous un peu ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu, dites-nous pourquoi et si ça pourrait vous tenter. Est-ce que vous pensez que les chrétiens ont vraiment un rôle à jouer en matière d'écologie? Et si oui, quel lien avec Laudato Si? En quoi Laudato Si pourrait vous inspirer? Et dites-nous si dans votre diocèse ou votre paroisse a été organisée une vraie démarche écologie. 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Toujours avec Anne Doutriot, coordinatrice du mouvement Laudato Si en France, qu'on vient de retrouver après une petite coupure. Ça arrive. Anne, ne me faites pas trop peur non plus. Je revenais sur votre analyse, vous, de Laudato Si, quand vous avez commencé à lire l'encyclique.
Oui, donc je vous disais ce qui m'a vraiment intéressée, c'était cette capacité à revenir aux causes et à nous inviter à la conversion. Il y a cette phrase, mais qui est une phrase de Benoît XVI, qui dit les déserts extérieurs qu'on observe sont le reflet des déserts intérieurs. Et il y a vraiment cette idée-là de dire on est appelé à se transformer. Et finalement, le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est ça vient d'une attitude de l'homme qui considère qu'il a le droit de tout faire, qu'il a le droit de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ses intérêts. Et ça, c'est une autre manière de parler du péché originel. Et on est dans quelque chose qui est complètement au cœur de la foi, qui est complètement un appel à la conversion et qui est un appel à ouvrir son cœur. J'aime beaucoup aussi cette partie qui parle d'avoir le cœur ouvert. Si on a le cœur ouvert à la souffrance des pauvres, on est forcément ouvert à la souffrance de la création et inversement. Et on est vraiment dans cette attitude de transformation, d'accepter d'ouvrir son cœur. Laudato aussi nous parle de oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et de le faire pour être ensuite capable d'agir. Et voilà, on retrouve cette dimension de penser et d'agir, mais et de conversion et d'être touché.
Ouais. Et ça, ça vous a particulièrement marqué sur l'analyse justement qu'il fait de la situation climatique dans le monde. Vous dites que c'est quelque chose qui est très juste parce qu'il est allé se documenter, parce qu'il s'est mis en lien, le pape François, avec des scientifiques.
Mais le Vatican a fait appel à des scientifiques pour faire cet état des lieux et des scientifiques de partout et qui en plus avaient quelque part cet espace pour s'exprimer, rentrer peut-être un peu plus dans les détails. Voilà, c'est un travail très très sérieux qui a été fait de ce point de vue-là et c'est reconnu aussi. Moi, des scientifiques m'ont dit c'est un très bon état des lieux de la situation qui est tracé par Laudato aussi. Alors il y a eu une évolution depuis. D'ailleurs, Laudato Deum, on en parlera sans doute, en parle de cette évolution.
Oui. Mais, Laudate Deum, donc c'est pas vraiment une encyclique d'ailleurs, c'est plutôt une exhortation apostolique. Je me trompe.
C'est une exhortation apostolique. Oui.
C'est un peu le tome 2, on va dire, de Laudato Si. C'est très court pour le coup. Alors là, c'est extrêmement simple à lire. On dirait une documentation. Juste sur Laudato Si, au niveau de du sommaire du chapitrage, il y a à la fois donc toute une analyse sur cette fameuse maison commune. Ce qu'il se passe dans notre maison. Ensuite, il y a un regard par rapport à l'évangile, hein, l'évangile de la création. Et puis ensuite, on ouvre plus sur des orientations.
Oui, tout à fait. Alors, il y a le troisième chapitre qui dénonce ce que le pape appelle le paradigme technocratique, qui est un mot qui n'est pas forcément très facile à comprendre, mais qui veut rendre cette idée de dire on utilise tout comme une ressource, et finalement à la fois la création et les gens, et voilà, et quelle est l'origine du problème. Et ensuite, on va vers cette description de ce que devrait être l'écologie intégrale. Alors, l'écologie intégrale, il y a des gens qui pensent que c'est mettre de l'écologie partout, c'est pas tout à fait ça, même c'est pas ça du tout. C'est de dire une compréhension globale du problème en disant on peut pas s'intéresser à la question écologique sans s'intéresser à la question sociale et inversement. Et après, dans le chapitre 5 et le chapitre 6, il y a des propositions qui sont autour de ce que devraient faire les États. Il y a cette dimension importante qui a été ensuite accentuée après par Laudato Deum. Et est-ce que nous on peut vivre et qu'on peut être amené à vivre au travers de notre foi, avec un chapitre 6 qui est très beau aussi autour de la sobriété, comment est-ce qu'on peut vivre intensément avec peu, et finalement le bonheur qu'on trouve dans la vie, c'est pas quelque chose qui vient du consumérisme, c'est des relations avec les personnes, c'est l'art, c'est le partage. Voilà, ça met en avant des choses qui sont très belles et finalement qui peuvent parler à tout le monde sur voilà, qu'est-ce qu'on veut vivre et qu'est-ce qui est important pour nous.
Alors si vous êtes avec nous, Anne Doutriau, ce matin, c'est aussi pour regarder un peu si les catholiques ont lu cette encyclique ou non, s'ils se sont engagés, si les institutions également ont pu prendre en considération la date aussi. Si on penche sur les catholiques, moi, alors j'ai regardé un vieux sondage comme quoi 66% des catholiques pratiquants, alors c'était en 2023, n'avaient pas lu Laudato Si. Est-ce que vous avez une enquête à peu près similaire?
Oui, en fait, c'était une enquête, on avait été associé à ça. C'est une organisation qui s'appelle Parlons Climat, qui avait mené cette enquête avec Arocha et un certain nombre d'organisations catholiques et protestantes. Le résultat fait un petit peu peur, mais en fait, il faut replacer dans le contexte. L'idée de l'enquête, c'était de s'adresser à toutes les personnes qui se déclarent catholiques pratiquantes, quelle que soit leur pratique religieuse. Et donc, ces 56% qui n'ont pas entendu parler de Laudato Si, c'est des gens qui, en grande partie, peuvent être un peu loin de l'institution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que dans ces personnes, il y en a qui ont une vie de foi très, très intense, même avec tout type de faire des pèlerinages, lire la Bible, prier individuellement, et qui sont aussi très engagés sur l'écologie et qui sont encore en attente d'un positionnement et d'un message de l'Église sur l'écologie intégrale. Et c'est tout l'enjeu pour nous aussi de leur faire découvrir ce texte de Laudato Si pour leur dire mais si, le message il est là et il y a des gens qui s'engagent à l'intérieur de l'Église et venez aussi avec nous partager quelque chose.
Quand vous avez lu, vous, les résultats de cette enquête, alors en effet, vous dites que ça peut faire un peu froid dans le dos, pour vous, il y a encore une vraie communication à faire sur cette encyclique?
Ah oui, tout à fait. Parce que en plus, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler, mais c'était une des hypothèses des chercheurs qui avaient fait cette étude, d'ailleurs, de dire est-ce que les gens ont bien compris que Laudato Si, c'était une encyclique. Parce que il y en a qui ont pu entendre parler de carême Laudato Si ou retraite Laudato Si, mais est-ce qu'ils ont bien fait le lien avec un texte et est-ce qu'ils savent qu'il y a un livre à lire? Et dans nos actions en tant que mouvement, c'est aussi cet enjeu-là de faire découvrir le message très largement. C'est pour ça qu'on a fait il y a 2 ans un film qui s'appelle La Lettre, et qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui peut servir à faire des projections publiques, notamment en paroisse par exemple. Et on se rend compte que les gens découvrent aussi ce qu'il y a vraiment dans l'encyclique à cette occasion-là. Parce qu'il voilà, peut y avoir des a priori ou des choses. Voilà. Et je pense que voilà, faire connaître ce message un peu en profondeur et donner les moyens aussi aux personnes de bien comprendre le lien entre ces enjeux écologiques et la foi, comment est-ce que tout ça est lié à la solidarité. Voilà, c'est toutes des choses qui sont très importantes.
C'est ce à quoi vous invitez les auditeurs ce matin?
Oui, tout à fait. C'est
je sais pas comment dire, du cœur, ça venait du cœur.
Voilà, c'est parce que voilà, on a vraiment à gagner à ce que ça soit plus connu plus largement et que les personnes puissent vraiment s'emparer de ce texte-là et se nourrir de ce texte-là. Et je dis pas ça parce que c'est particulièrement mon truc et que j'essaierai de promouvoir mon sujet de prédilection, c'est que je vois à quel point ça touche les gens je pense après des projections du film La Lettre, d'avoir eu des échanges avec les personnes, disait voilà, je découvre un peu la situation dans les pays du Sud dont j'avais pas conscience, et je me rends compte, et quelqu'un qui disait mais en fait ça c'est complètement la foi chrétienne ce dont on est en train de parler, la souffrance de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde est aussi ma souffrance, et on est là ensemble pour agir ensemble et pour donner l'espoir, et disait voilà, on est au cœur de la foi, quoi. Et je pense que c'est, pour moi, ce texte, c'est quelque chose qui nous dit, voilà dans quelle époque on vit, et voilà quelle devrait être notre manière de vivre la foi chrétienne dans cette époque et dans ce monde-là. Mmh. Et dans ce sens-là, ça concerne vraiment tout le monde.
Il est sorti donc il y a 9 ans, ce texte Laudato Si. Est-ce qu'il est dépassé?
Non.
Parce qu'il y a eu quand même du changement en 9 ans.
Ouais. Alors, je devrais peut-être nuancer la réponse pour parler de Laudato Deum, mais j'aurais envie de dire non, parce que il y a toujours des groupes, on voit en paroisse, localement, qui se réunissent pour lire Laudato Si ensemble et échanger, et qui nous disent je suis en train de vivre une vraie conversion. Ça m'élargit tout d'un coup ma vision de la foi à des sujets auxquels je m'étais pas intéressée, ça me fait prendre du recul sur certaines choses. C'est voilà. Donc je pense que ce texte il parle toujours. Après, ce qui est vrai, c'est que la situation a évolué, notamment au niveau du climat. On voit beaucoup plus des effets aujourd'hui, même en France, là où on vit, du changement climatique qu'on percevait pas avant, ou en tout cas pas de la même manière. Il y a des conséquences qu'on connaît déjà. Et c'est dans ce contexte-là qu'est venu le texte Laudate Deum, donc qui est un peu la suite de Laudato Si. Alors on va dire que c'est une exhortation apostolique, on va dire c'est le niveau peut-être un peu en dessus, on peut dire l'encyclique c'est le niveau le plus élevé de texte qu'on puisse, qui puisse sortir. Là c'est peut-être un tout petit peu inférieur, mais à peine. Et qui était un texte qui est sorti le 4 octobre l'année dernière, avant la COP. Donc il y avait cette COP 28 qui s'annonçait avec les personnes engagées pour l'écologie étaient assez pessimistes en disant voilà le contexte à Dubaï, il ne faut peut-être pas en attendre grand chose.
Surtout oui, là on était en COP 28, oui, c'est ça, hein, on était voilà, à quelques semaines.
Voilà, et là le pape François surprend tout le monde en annonçant qu'il va sortir une suite de Laudato Si, et il sort un texte où il dit notamment oui, c'est vrai, la situation est grave. On voit que ça faisait 8 ans que Laudato Si était sorti, depuis 8 ans les décisions et les mesures qu'il fallait prendre n'ont pas été prises. On sait qu'il y a des difficultés au niveau des COP, mais en même temps il serait suicidaire de ne pas espérer. Ouais. Et il faut continuer à agir. Et il y a cet élan qui a été considérable, enfin, on l'a vraiment senti là, au niveau de, enfin, à plein d'endroits différents.
Oui, c'est ça. Alors, Laudate Deum, je l'avais lu dans le train, donc j'avais eu le temps, pour le coup, c'est extrêmement rapide. Et en fait, c'est à la fois un cri du cœur, et vous l'avez dit, Anne Dutriot, mais je trouve que c'est un texte extrêmement politique, beaucoup plus que Laudate aussi.
Disons que ça met l'accent sur des choses qui étaient déjà dans Laudate aussi, mais ça les dit de manière plus forte.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà cet appel à avoir des décisions et par les États, mais là ça accentue, ça donne le contexte en disant voilà les COP, voilà pourquoi, enfin ce qui n'a pas marché. Le pape va pas hésiter à dire que les gens défendent leurs intérêts particuliers et que du coup ça ne peut pas fonctionner comme ça et qu'il faut penser au bien commun. Voilà, il mâche pas ses mots et je pense que c'était le texte dont on avait besoin à ce moment-là, ouais, effectivement.
Oui, mais c'est
ça. Pour faire comprendre.
Alors, il n'y a pas à comparer Laudato Si et Laudate Deum. Hein, c'est pas l'objectif du tout de cette émission, mais Laudate Deum, quand on le lit, je trouve que c'est très politique. Et puis là, on sent, alors c'est un peu idiot de dire ça, mais un vrai chef d'État. Ça pourrait très bien être un discours d'un homme politique lors d'un meeting, je trouve, puisqu'il essaye dans ce texte notamment il parle de multilatéralisme, il parle de responsabilité politique. On est quand même sur un autre niveau que Laudato Si, qui est beaucoup plus une analyse avec évidemment des orientations, des moyens d'agir, un constat, mais voilà, c'était plus neutre, je trouve.
Mais en fait, quand le pape s'exprime, il s'exprime aussi comme chef d'État. C'est vrai que c'est cette situation un peu particulière, oui, alors même si l'État du Vatican est comme un État très particulier aussi. Mais moi, on m'a beaucoup dit que pendant la COP 21, certains propos de Laudato Si ont été repris par d'autres chefs d'État, mais en disant « un chef d'État a dit ça ».
Ah oui.
Et finalement, pas forcément avec la dimension religieuse, même si c'était très important pour certains pays, bien sûr. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une voix dans cette assemblée, on va dire, des États. Et le Vatican a rejoint les accords de Paris aussi pour participer en tant que signataire des accords, d'État signataire des accords. Voilà. Mais je pense que cette question de dire tout ne peut pas jouer au niveau individuel, elle est très clairement dite dans Laudate Deum, mais elle était déjà présente dans Laudato Si, dans le chapitre 5. Pour dire, voilà, ce sont des problèmes qui sont tellement énormes. On ne peut pas dire juste, voilà, les personnes individuellement vont agir. Il y a des choses qui ne dépendent pas d'elles. Et finalement, on voit que ça se joue à tous ces niveaux, et y compris au niveau de ce qu'il appelle le multilatéralisme. Mais si on prend un peu de recul, en fait, Laudato Si, c'est un appel au dialogue.
Oui,
et un appel au dialogue avec des personnes différentes. Et cet appel au dialogue, il se joue à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau des États. Et je pense que c'est ça, en fait, de dire on est ensemble, chacun apporte ce qu'il a apporté, et ensemble, on va avoir le courage de prendre les décisions, même si elles sont difficiles, qui vont être les décisions qui vont être les meilleures pour le bien commun et pour l'ensemble des habitants de la planète, et pas seulement un petit secteur ou certaines catégories de personnes.
Une réaction de Clément par mail à direct@rcf.fr. Une partie des chrétiens et de l'Église ignorent encore complètement le sujet. Une grande lenteur à l'allumage, je trouve, nous dit Clément. Ce sujet est politique et semble cliver droite... semble cliver droite-gauche en France, alors que le sujet dépasse cette question. On va pas faire de la politique ensemble, hein, Anne. Pas aujourd'hui. Pas dans ce contexte. Mais par contre, je trouve ça intéressant quand Clément nous dit qu'il y a une grande lenteur à l'allumage.
C'est, alors la lenteur, ça me fait penser à un animateur là, au Laudato Si. On fait des formations en ligne et on a donc des personnes qui ont suivi la formation qui s'engagent ensuite dans leur paroisse ou dans leur mouvement, enfin là où ils sont, qui m'envoyaient un message en me disant ça avance à la vitesse d'un escargot en vacances. c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que des fois on a un peu ce sentiment-là. En même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et je reviens quand même sur la question du clivage. Je pense que c'est un des enjeux de faire comprendre que ça concerne tout le monde, ces questions-là. C'est pas parce que j'ai cette sensibilité ou cette telle orientation politique, voilà, que je vais m'intéresser à ça. C'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. C'est pour ça que c'est pour tous les habitants de la planète, voilà. Et réussir à sortir un peu de ces schémas qui nous emprisonnent pour réfléchir de manière globale, je pense que c'est aussi une manière de répondre à ce à quoi nous appelle Laudato aussi, qui nous dit que tout est lié et qu'il faut pas prendre les problèmes indépendamment les uns des autres, mais vraiment avoir cette vision d'ensemble. Voilà. Et après sur le fait que ça avance, sur lequel j'ai pas répondu. Si ça avance, on a parfois un peu de mal à le voir. Déjà il y a plein d'actions qui sont un peu discrètes et qu'on voit pas. Et moi j'ai des témoignages très beaux de personnes qui vont vivre des choses dans leur paroisse, dans leur école, dans une école catholique ou dans leur mouvement. On voit quand même déjà rien qu'en France, il y a beaucoup de mouvements et d'associations, d'organisations qui s'engagent, que ça soit des diocèses. On a un réseau des référents écologie intégrale avec quasiment chaque diocèse qui a un référent et qui fait des choses au niveau de son diocèse. On a des mouvements, je pense au Scout et Guide de France qui lance une grande action sur 2 ans, sur Clameur de la Terre, Clameur des Pauvres, mais je pense aussi à CVX, où il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a plein de mouvements qui... Le MCR, qui va lancer des groupes de réflexion sur la Laudato Si. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément, mais qui germent un petit peu partout. Et c'est peut-être à nous aussi d'être attentifs à ce qui émerge, et qui est peut-être encore discret, mais qui montre, mis tout ensemble, ouais, ça montre qu'il y a quand même vraiment un élan. Et après, au niveau de l'impact lui-même de la Laudato Si, on est partie prenante de l'alliance Laudato Si Europe, LCA en anglais, qui est une alliance de plusieurs organisations catholiques européennes, et qui a fait une enquête l'année dernière pour savoir quel a été l'impact de Laudato Si. Et les résultats ont été publiés cette année, c'était très intéressant. L'enquête a largement circulé auprès de plein d'organisations. Il y a 20 pays différents qui ont participé à l'enquête. Je crois que c'est 280 organisations, quelque chose comme ça. Dans ceux qui répondaient, à peu près la moitié disaient qu'avant Laudato Si, il n'y avait pas d'action autour de l'écologie intégrale. Et après Laudato Si, ils sont 95% à dire qu'ils ont fait des changements, dont certains des changements substantiels. Il y en a un tiers qui ont fait des changements substantiels suite à Laudato Si. Donc l'impact, il est réel, même si parfois on a un peu de mal à le voir. Et puis on aimerait toujours que ça aille plus vite.
Et l'impact est réel aussi dans les paroisses, dans les diocèses, avec notamment le label Église verte qu'on évoquera tout à l'heure. D'ailleurs, vous en faites partie, Anne. Vous êtes partout, vous.
Alors oui, le mouvement Laudato Si fait partie du bureau élargi du label Église verte. Voilà, il y a un bureau qui, le bureau d'Église verte, et il y a un bureau élargi qui vient un peu pour apporter des réflexions plusieurs fois par an, essayer de réfléchir sur les orientations et puis faire du lien aussi entre les différents acteurs. Et effectivement, le label Église verte est quelque chose qui est très bien développé en France. Et il y a beaucoup de paroisses, mais pas que, qui sont engagées dedans, parce que c'est aussi ouvert aux congrégations religieuses, aux associations. Il y a des propositions pour les familles maintenant, pour les jeunes. Donc c'est quelque chose qui peut toucher énormément de monde. Et c'est une proposition œcuménique. Donc c'est intéressant de voir aussi que ça permet d'avoir des catholiques, des protestants et des orthodoxes qui se réunissent ensemble dans la même démarche.
On va en parler dans un instant de ce label Église verte. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de ce texte, cette encyclique du pape François Laudato Si. Est-ce que ça vous inspire comme texte? Est-ce que vous savez si votre diocèse ou votre paroisse a pu mettre en place une vraie démarche écologie depuis sa sortie il y a 9 ans? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Anne Doutriau, on marque une petite pause. Je vous dis à tout de suite. Je vous lirai un message de Jean-Luc et d'Anaïs dans quelques instants. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis. C'était le 18 juin 2015, la sortie de l'encyclique Laudato Si, un texte du pape François, une référence en matière d'écologie intégrale. On en parle avec notre invitée Anne Doutriot, coordinatrice du mouvement Laudato Si. Vous avez la parole pour nous dire en quoi ce texte peut-être vous a inspiré si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, bah c'est pas grave. On a quand même envie de vous entendre nous dire, voilà, votre engagement pour l'écologie en tant que chrétien. 04 72 38 20 23.
Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Ils étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez le Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Plus rien ne m'étonne, c'était Tikenja Fakoli pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec notre invitée Anne Doutriot, coordinatrice du mouvement Laudato Si en France. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Melk. question. Bonjour à votre invité.
On vous écoute.
Oui, moi je ne connais pas l'audace aussi, mais seulement je pense que c'est le cœur qui parle, quoi. Bon, ben, quand je vois l'agriculture et l'élevage intensif, c'est abominable, quoi. Je dis, je comprends pas comment on peut élever tant d'animaux sans les maltraiter. Et puis la terre, c'est sacré. Mes grands-parents, ils avaient 12 ou 13 vaches. Quand il pleuvait, on les ramenait à la crèche et on s'occupait sinon plus des animaux que des gens. Je trouve que c'est un manque de cœur de ne pas respecter. Je connais pas la Laudato si, mais pour moi, c'est le cœur qui parle.
Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie pour votre témoignage. Bah voilà, c'est pas grave, vous n'avez pas lu Laudato si, on ne va pas vous juger, mais alors absolument pas. Mais c'est intéressant parce que justement en termes d'élevage intensif, c'est pas forcément dit dans la Bible, mais par contre dans Laudato si, le pape François lui a rappelé la valeur des animaux et il est resté très prudent sur les questions d'élevage quand même, Anne Doutrio.
Oui, alors j'aimerais bien réagir d'abord sur moi. Ce qui me frappe, c'est qu'elle parlait du cœur et du cri du cœur, et je pense qu'on est vraiment dans le message, d'être touché, d'ouvrir son cœur. Donc je pense qu'elle a pas lu Laudato si, mais elle a déjà quelque chose de l'essence du message de Laudato si. Voilà. Après au niveau de l'agriculture et de l'élevage, alors il y a des choses qu'on peut dire au niveau scientifique. Enfin, on sait qu'il y a un impact de l'élevage et de la consommation de viande et qu'on a besoin de réduire collectivement notre consommation de viande, qui a un impact sur le climat. Mais si on va un peu au-delà de ça, en étant dans cette approche intégrale, nous on avait été, je pense qu'on a tous été marqués par les manifestations des agriculteurs qui a pu y avoir en début d'année, et en disant voilà, il y a des personnes qui pourraient avoir tendance à opposer un peu, voilà, il y aurait les mesures environnementales qui seraient au détriment des agriculteurs ou les mesures sociales qui seraient au détriment de l'environnement. Et je pense que Laudato si nous éclaire là-dessus en disant il n'y a pas deux crises, une crise environnementale, une crise sociale. Il y a une seule crise qui est une crise sociale et environnementale et qui demande des solutions qui vont adresser tous ces sujets-là. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, pour accompagner les agriculteurs, quel que soit leur métier, enfin, qu'ils soient dans l'élevage ou dans d'autres types de production, pour qu'ils soient aussi dans quelque chose où, enfin, voilà, moi, ça me touche aussi quand elle nous parlait de l'amour des bêtes. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cet amour pour leurs animaux et, oui, et qui puissent pratiquer leur métier d'une manière qui est respectueuse de tous, en fait.
On continue avec Luc. Vous êtes dans les Ardennes. Bonjour, Luc.
Oui, merci pour cette super émission. Je suis donc je me partage entre les Ardennes et les Yvelines, et en fait je suis écologiste, un vieil écologiste, puisque dans ma jeunesse il n'y avait pas de poubelles, tout était réutilisé, et c'est bien après que les poubelles sont arrivées dans nos Ardennes. Je suis un fervent défenseur de l'écologie, comme je vous disais, engagé politiquement, et ce texte de Laudato si du pape François est venu d'abord ouvrir la porte à l'écologie dans l'Église. Il faut savoir que dans les années 80 à Versailles, être écologiste c'était extrémiste de gauche, donc nous étions très très mal vus. Nous étions juste bien vus par les prêtres ouvriers et par la CO, parce que nous portions ces valeurs-là. Et il est important de savoir que tout ce que le pape nous dit dans ce texte-là, eh bien, nous le pratiquons. Je suis végétarien, je me lave à l'eau froide, je me douche à l'eau froide, et il suffit de prendre un peu l'habitude pour avoir des gains énergétiques énormes, puisque notre corps permet de chauffer l'eau. Je pratique le vélo, dans les Ardennes, sur les grandes distances, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de transports en commun.
Oui.
Mais sinon, en région parisienne, tout ça. Et ça permet de vivre vraiment la mise en pratique de l'écologie. Et je crois qu'il y a une chose très importante, c'est la relecture de la Genèse. Jusqu'à maintenant, c'était l'exploitation de ce qui nous était donné. Aujourd'hui, il y a un respect de ce qui nous est donné, et le pape François l'explique bien. Mais je pense qu'il est aussi important de parler de Laudato Deum. En fait, c'est une relance que le pape François a fait juste avant. Donc les dates, je ne les ai pas sur le texte.
Laudato Deum, c'est en octobre dernier.
En octobre dernier, juste avant la réunion qui s'est
juste avant la COP28, voilà, à Dubaï.
C'est important de le rappeler aussi parce que il nous a dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, alors qu'il y avait un petit laisser aller, quoi. Et pour en revenir aux paroisses, et bien dans les paroisses, c'est toujours difficile d'être écologiste. arriver en vélo à l'église, surtout dans nos régions, ben c'est mal vu, quoi. Ça fait un peu rétrograde. Il faut savoir que à la campagne, le vélo, c'est un déclassement social. C'est pas comme à Paris. À Paris, c'est devenu la classe. On se déplace à vélo sans aucun problème, ce que je fais d'ailleurs quand je suis dans la région de Versailles. Mais en région, c'est un peu difficile. Voilà.
Et merci Luc
pour cette super émission. Je trouve que combien il est important de ramener les gens à cette écologie, et surtout pour nous qui sommes donc engagés dans la foi, et je le suis, eh bien de rappeler que le pape nous guide sur un chemin de respect de notre environnement et de tout ce qui nous a été donné par Dieu.
Merci beaucoup Luc pour votre appel au 04 72 38 20 23. Anne Doutrio pour réagir. Vous êtes d'accord avec ce que nous a raconté Luc? On sent l'engagement.
Je pense qu'il a raison de reparler de la relecture de la Genèse, et ça vaut la peine peut-être d'en dire un mot. C'est vrai qu'il y a eu cette accusation qui avait été faite à l'Église de dire finalement la Genèse, enfin la Bible nous propose une vision où l'homme est invité à dominer la création, et puis c'est ça qui nous met dans une relation qui est mauvaise avec la création. Et en fait, Laudato aussi vient répondre à ça en disant, mais dans le deuxième récit de la Genèse, de la création dans la Genèse, en Genèse 2, Dieu crée l'homme et le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et il y a cette image du jardinier qui est très belle, en disant, voilà, à la fois cultiver et faire émerger des choses qui sont pas présentes et qui sont, rendre ça plus beau, faire un potager qui va nourrir, par exemple, mais en même temps le garder, le protéger, et cette image du jardinier qui va vouloir aussi pouvoir transmettre ce jardin à ses enfants, il va pas vouloir en faire un désert. Hein. Et c'est cette juste relation qui a recherché. Et même si on se réfère au premier récit de la Genèse qui nous parle de dominer la création, en fait, c'est dominer à l'image de Dieu et Jésus qui est serviteur, en fait, et c'est qui prend soin. Et donc, c'est pas un maître autoritaire. Et finalement, on pourrait dire que si on lit bien la Bible, on comprend ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être une mauvaise lecture de la Bible qui pourrait nous orienter dans une mauvaise direction de domination.
Un message de Jean-Luc, reçu par mail quelques mois à propos de Laudato Si. Pour ma part, j'ai lu et relu, mais sur notre diocèse et sur notre paroisse, il n'y a quasiment rien. En fait, aucune direction diocésaine, et pour avoir même échangé avec celui qui est délégué diocésain Laudato Si, mais qui a réussi tellement d'autres casquettes qu'il ne peut pas consacrer que très peu de temps. Il y a presque un refus de l'évêque d'engager des moyens humains et financiers pour promouvoir Laudato Si. Et de ce fait, sur notre grand diocèse, il est à Lyon, il n'y a que quelques paroisses sur lesquelles on peut compter, qui ont vraiment eu une démarche Laudato Si. Anne Doutrio, est-ce que des Jean-Luc qui pensent ça, il y en a beaucoup en France?
Alors, il y en a, mais j'allais dire qu'il faut pas que ça l'empêche de faire quelque chose et de lancer quelque chose. Il faut pas avoir peur de commencer petit. On parlait d'Église verte tout à l'heure. Église verte, c'est une très belle démarche pour engager sa paroisse dans une transformation de paroisse. Mais c'est possible aussi que, pour des raisons diverses, la paroisse n'ait pas envie de s'engager en tant que paroisse, mais rien n'empêche de créer un groupe local et déjà commencer à se réunir à prier, à réfléchir, à agir ensemble. Nous, on invite les personnes, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays et qu'on invite à faire en France aussi, à créer ce qu'on appelle des cercles Laudato Si, qui sont des petits groupes de personnes qui se réunissent une fois par mois. Et ne serait-ce que prier et réfléchir et échanger ensemble, c'est déjà beau. Et c'est des lieux de conversion pour les gens qui sont dans ces groupes-là, qui sont un peu comme des fraternités. Et en même temps, c'est aussi des endroits où on va pouvoir commencer à faire des actions. Et petit à petit, ça va grandir et ça va se transformer. Et la conversion, ça prend du temps et c'est pas forcément un chemin tranquille. Oui. Mais je pense qu'on a des belles choses à apporter. Et je pense que s'il y a ce souhait de s'engager et quelque chose à partager, voilà, il faut pas hésiter à essayer de faire vivre quelque chose autour de lui. Quoi.
Un message de, je dis quoi, d'Anaïs, voilà, qui habite en Île-de-France. Laudato Si m'a permis d'être reconnu comme écologiste légitime par mes collègues en études de théologie et comme chrétienne légitime par mes collègues des formations à la protection de la nature. C'est intéressant, ça.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Il y a ce fait de dire, je suis plus la seule personne à penser ça, j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer. et de à la fois faire partie d'avoir les clés pour parler du lien avec la foi et puis de faire partie de quelque chose de plus vaste. Et nous, dans les valeurs du mouvement Laudato Si, qui sont quelque chose qui a été écrit de manière synodale par les membres du mouvement à l'international, il y a cette idée d'être écologiste chez les catholiques et catholique chez les écologistes et de créer des ponts entre ces mondes-là. Et je pense qu'elle est bien dans le rôle auquel on pense quand on écrit ça.
Voilà, c'était important de vous lire ces petits messages. On en reçoit en tout cas et on entend à quel point Laudato Si a pu vous inspirer. Comment ça a été accueilli par les institutions? Je crois aussi que ça fait partie d'une enquête que vous avez pu réaliser.
Ce dont je vous parlais en fait de cette enquête européenne où effectivement la moitié des répondants qui n'étaient pas engagés avant, enfin n'étaient pas engagés avant, et ils sont 95% à avoir fait des changements importants, enfin dont des changements importants. Les réponses sont assez diverses suivant les pays, bien sûr, et puis nous on le voit parce que on est un mouvement international, on est présent dans 160 pays, je crois. Avec des réalités extrêmement extrêmement diverses. Pour prendre des exemples variés, je sais qu'au Brésil, il y a des choses au niveau de la conférence des évêques qui portent beaucoup cette thématique, qui accompagne les formations qu'on fait, qui les promeut. Au niveau de l'Irlande, il y a eu un engagement qui a été pris, je crois, l'année dernière, suite à la COP sur la biodiversité qui avait lieu l'année d'avant, qui appelait à réserver une partie des terrains à la biodiversité, donc à ne pas travailler certains terrains. Ils ont décidé que 30% des terrains d'église allait être consacrée à ça. Voilà. Et je pense qu'il y a cette variété de réponses. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question.
Voilà.
Et pour prendre un dernier exemple, au moment de la COP de l'année dernière, on avait invité à faire des prières pour la COP. Et ça s'est fait dans différents diocèses. Ça s'est fait par des personnes en groupe individuellement, comme je parlais, des gens avec leur cercle Laudato aussi. Ils sont allés prier dans la rue avec des messages de Laudate Deum pour inviter à des décisions dans la COP. Il y a des diocèses qui ont organisé des prières au niveau du diocèse. Et en Belgique, il y a des évêques de Belgique qui ont appelé à aller participer à une marche pour le climat, qui sont allés marcher avec les manifestants pour appeler à des décisions pour la COP. Donc il y a toute cette variété d'engagement. Et je pense que ça, c'est important aussi de le mettre en avant parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, la même manière de s'engager. Et c'est toute cette diversité de voix et d'engagement qui va faire aussi qu'on va porter un message.
Un mot sur Andrew Trio, sur le temps pour la création qui est organisé chaque année aux alentours du mois de septembre et qui va revenir encore là cette année.
Oui, c'est un moment très important, le temps pour la création. Donc tous les ans, c'est du 1er septembre qui est la journée mondiale de prière pour la création, et ça dure jusqu'au 4 octobre qui est la Saint-François d'Assise. Et c'est un temps œcuménique international. Il est préparé par un groupe œcuménique. Donc pour les catholiques, c'est le mouvement Laudato Si et le Vatican qui font partie de ce comité de pilotage. Après, il y a aussi représentants des protestants, des anglicans. Enfin, c'est là qu'on voit toute la variété des chrétiens qu'on n'a pas forcément tous représentés en France de la même manière. Tous les ans, il y a un thème qui est proposé, et cette année c'est les prémices de l'espérance, inspiré par la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 25. Et je pense qu'on a un beau message d'espérance à porter effectivement autour de nous. C'est l'occasion de faire des actions œcuméniques en se rapprochant d'une paroisse protestante. C'est l'occasion aussi de donner de la visibilité. Et quand je parlais de ces chrétiens qui sont à attendre et qui n'ont pas encore entendu parler de Laudato Si, ben c'est le moment de mettre peut-être des pancartes ou des banderoles sur l'église, bâtiment, de faire des choses peut-être dans la rue, pour aller toucher et faire connaître ce message. Et ce rendez-vous qui revient tous les ans, il est important dans sa régularité aussi, pour dire une fois par an, on prend le temps de réfléchir au monde que Dieu nous a confié et à Dieu créateur. Et c'était Benoît XVI qui disait, on a beaucoup finalement réfléchi autour de l'incarnation, autour de la rédemption, et c'est très important. Mais si on oublie Dieu créateur, on a quand même une partie de notre foi qui manque, et on a peut-être besoin de mettre davantage l'accent sur Dieu créateur et sur la responsabilité que Dieu créateur nous confie à nous, humains.
Avec des thèmes pour ces temps pour la création qui sont différents d'une année à l'autre, qui mettent peut-être l'accent sur des choses différentes.
Oui, alors c'est toute une réflexion du comité de pilotage de ce temps pour la création et le thème est dévoilé en février à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et c'est pas choisi au hasard, c'est parce que c'est un moment œcuménique important. L'année dernière, c'était autour du prophète Amos qui disait de la part de Dieu que Dieu demandait à ce qu'une rivière de paix et de justice se répande. Donc on a été beaucoup sur cette idée de la justice et de la paix. Et c'était aussi une très belle dimension à travailler. Et là, cette année, en fait, le thème de l'espérance accompagne un peu toute l'année, puisqu'on était sur semence d'espérance comme thème de la semaine Laudato Si, qui pour l'instant est pour les catholiques. Et on va être amené, et je pense que ça rejoint un peu la question qui était posée en disant ça va pas assez vite. C'est-à-dire être capable aussi de voir ces prémices de l'espérance, qu'est-ce qui germe et comment est-ce qu'on les rend visibles.
Ah oui, le prophète Amos, on s'était demandé si c'était un prophète écolo, et c'était assez intéressant. Justement, le temps pour la création, l'année dernière, en septembre 2023, il y avait un vrai focus sur la justice climatique. Ça, c'était aussi un peu, je vais pas dire nouveau, mais c'est quelque chose qui revient énormément, et notamment dans Laudate Deum, d'ailleurs.
Oui, ben en plus c'était Laudate Deum est sorti à la fin de ce temps pour la création,
oui.
Donc c'était on était dans l'attente. Tout le monde essayait d'avoir des infos d'ailleurs pour savoir un peu ce qu'il allait avoir dans Laudate Deum. Là cette année, un des faits marquants de cette année, c'est que il y a des propositions qui sont faites par le comité œcuménique international pour le temps pour la création. Il y a des propositions de célébration œcuménique. Il y a des propositions pour mettre en avant le thème de manière un peu concrète, des propositions d'animation, etc. Mais cette année, il y a aussi une journée d'action qui a été décidée le 21 septembre autour du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, qui est une initiative aconfessionnelle internationale qui a démarré déjà il y a quelques années et qui appelle les États à collectivement définir un traité qui permette de sortir des énergies fossiles dont on sait l'impact que ça a sur la vie des gens et notamment dans les pays les plus vulnérables, mais aussi en France sur les plus vulnérables, et de le faire de manière juste pour que chacun puisse avoir accès à l'énergie, que personne ne soit laissé de côté. Et ce traité de non-prolifération, il a déjà été signé par certains États qui sont les premiers États signataires étaient des États très touchés du Pacifique, très touchés par le changement climatique.
Oui.
Il y a aussi la Colombie qui l'a signé, il y a le Parlement européen il y a 2 ans qui a appelé à mettre en œuvre ce traité. Donc on a ce sujet qu'on va porter collectivement, que ce soit en France ou dans les autres pays du monde, au cours du mois de septembre.
Vous, qu'est-ce qui vous porte chaque jour dans vos engagements, à la fois pour le mouvement Laudato Si, pour Église Verte?
Si je réponds la foi, est-ce que c'est
une prière? Je pense que ça va, cette circonstance.
Franchement, moi, je suis convaincue qu'on est tous appelés à jouer un rôle, en fait, en tant que chrétien, et un peu trouver sa place. Moi, j'ai l'impression d'être aujourd'hui, voilà, à la place à laquelle je dois être. Et je suis très portée par toutes ces initiatives que je... Cette communauté d'animateurs, c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on vit parce que c'est des personnes qui suivent une formation en ligne et donc qui se voient pas physiquement et qui se retrouvent ensuite toujours en ligne, mais avec un vrai sentiment de communauté, des échanges, de la fraternité, y compris avec les pays du Sud. Et ça, de pouvoir vivre des temps avec des personnes qui sont en République démocratique du Congo, en Haïti, au Liban, qui ont des vies complètement différentes de la vie qu'on peut avoir nous, et de voir qu'on se rejoint dans un même engagement et porté par une même foi, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Enfin, je pense que ça, c'est ce sentiment de communauté, il est très très important.
On arrive à la fin de cette émission. Peut-être un mot pour celles et ceux qui n'ont pas lu Laudato Si. Que pourriez-vous leur dire ce matin?
Alors, c'est sûr, ça vaut vraiment la peine de le lire. De le lire en groupe, si c'est possible, d'échanger avec d'autres. C'est un texte c'est un appel au dialogue, et le dialogue, c'est important de l'avoir. Après, on a ce film La Lettre qui a été fait, inspiré par l'encyclique, qui met en scène des personnes engagées dans différents pays du monde, et notamment dans des pays du Sud, qui représentent la voix de la terre, la voix des pauvres, la voix des peuples autochtones, la voix de la jeunesse. C'est un film qui est un film très grand public, très facile à projeter. Et c'est un très bon moyen de commencer quelque chose. C'est-à-dire on se retrouve à plusieurs, on invite des amis, ou en paroisse, on fait une projection. On le regarde et ensuite on lit Laudato Si ensemble et on échange ensemble. Et il y a moyen vraiment de vivre des très belles choses. Et en paroisse, on l'avait fait en lisant Laudate Deum. Et une des personnes qui était du groupe nous avait dit, en revenant à une de ces soirées où on lisait Laudate Deum, je me demandais un peu si j'allais revenir parce que finalement, ce qu'on fait là, on pourrait discuter dans un groupe écolo, enfin, ça serait pareil. Et je me rends compte, après avoir échangé avec vous, que le fait d'en parler dans la foi, ça change tout. Donc je pense que c'est ça, en fait.
Ouais. Et une dernière question, après j'arrête de vous embêter, promis, à deux trios. C'est très dur, attention. Un mot pour résumer Laudato Si.
Ouvrir son cœur.
Oh bah non, mais la 3. Ok, non, allez, ouvrir son cœur. Pourquoi?
Parce que c'est cette dimension de conversion, se laisser toucher et puis se mettre en mouvement. Et je pense que la première étape, c'est vraiment effectivement de se laisser toucher par ce qui se passe.
Merci
beaucoup.
Et c'est
le cœur d'autre fois.
Merci Anne Doutrio d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir, mais comme à chaque fois, ça ne change pas. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du mouvement Laudato Si en France, dont on peut retrouver beaucoup plus d'informations sur le site laudatosimovement.com. Point org, il y aura une page en français. Il est 10h55, c'est presque la fin de cette émission, mais non, puisqu'on va retrouver tout de suite notre chroniqueur, comme tous les mardis. Renaturer les forêts, c'est l'action remarquable de l'association Semeur de Forêts, qui cherche ainsi à œuvrer contre le changement climatique en utilisant le pouvoir réparateur de la biodiversité. Pour en parler, on reçoit Julien Deséchaux, le directeur du média Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
L'association Semeur de Forêt vient d'acquérir un nouveau terrain à sanctuariser. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce travail remarquable ?
L'association Semeur de Forêt continue en effet son travail de sanctuarisation et de renaturation en France, en signant récemment l'acquisition d'un nouveau terrain de 5,3 hectares au Louroux Béconnet en Maine-et-Loire. De nouvelles parcelles viendront également étendre son terrain sanctuaire de 8 hectares à Abzag, en Charente-Limousine. L'association renforce ainsi son action pour le développement de forêts naturelles en France. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité.
Une association qui poursuit sa dynamique d'acquisition de terrain depuis 2019.
Depuis sa création il y a 5 ans, l'association travaille au développement de forêts indigènes en France en faisant l'acquisition de terrains pour les sanctuariser. S'inspirant de la méthode japonaise des micro-forêts dites Miyawaki et de la libre évolution, ces terrains sont étudiés puis préparés pour un reboisement respectueux de la biodiversité, la nature du sol et les espèces locales. Depuis 2019, l'association a su mobiliser plus de 270 bénévoles au cours de plantations citoyennes sur ces terrains qui couvrent aujourd'hui près de 29 hectares. Plus de 6000 arbres ont ainsi été plantés sur ces 6 terrains en Charente, en Oise ou encore dans l'Eure. L'association mène également des actions pédagogiques en proposant des ateliers de découverte aux écoliers à proximité des terrains reboisés afin de sensibiliser ces nouvelles générations aux enjeux environnementaux.
Et en quoi consiste cette méthode de plantation ?
Ce dispositif se décline en plusieurs étapes. Une sélection est faite tout d'abord au sein d'une variété de plantes indigènes d'un territoire, c'est-à-dire qui appartiennent à ce territoire. Les graines sont ensuite plantées et mises à germer dans des pépinières. Lorsque les plants ont 1 ou 2 ans, ils sont replantés ensuite sur des terrains préparés. Les sols sont alors amendés en amont grâce à des matières naturelles comme les écorces ou le mulch. L'idée étant d'augmenter leur fertilité et de mettre au maximum les conditions propices pour ces arbres à venir. Entre 30 et 40 essences natives du terroir sont ainsi sélectionnées sur chaque parcelle afin de maximiser la biodiversité qui pourra s'y installer. Les essences choisies vont de l'arbuste des bocages aux arbres de canopée pour une occupation optimale de l'espace vertical et un plus grand stockage du carbone. Cette biodiversité évolue ensuite au fil des temps à mesure que les successions végétales s'installeront.
Eh bien, merci beaucoup Julien Deséchaux pour cette chronique et rendez-vous sur votre site internet sans-transition-magazine.info. Merci à vous toutes et tous pour vos appels et vos réactions ce matin. Merci à Nathan, Catherine et Pierre à la réalisation. On se retrouve demain avec grand plaisir de 9h à 11h en compagnie de Madeleine Vatel. On parlera du vote blanc en France, cette circonstance. À demain, bonne journée.